Vous êtes bien sur Radio Bartas.
Vous êtes bien sur le 107 FM.
Il est 9h.
Les matinales de Bartas.
Pour parler de tout et de rien.
Du local surtout.
Il y a un peu de national, un peu d'international.
Ouais, mais pas trop.
Les matinales de Radio Bartas.
C'est à partir de 9h.
Sur le 107 FM. Ah, mais c'est parce que j'avais pas mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est incroyable, le 21 septembre, le lundi 21 septembre, dernier jour de l'été, l'automne pointe le bout de son nez, on avait vu un petit bout ce week-end, c'était pas mal, il est 9h au programme, bah voilà, Nico est avec moi, bonjour Nico.
Bonjour Ben.
À deux doigts de pas te dire bonjour ce matin, c'est fou.
Mais deux doigts ça suffit.
Au programme de cette matinale, nous sommes en plateau avec Céline, bonjour.
Et bonjour.
Et Sophie, bonjour.
Bonjour.
Sophie, tu adores la radio, c'est génial.
J'adore ça.
Merci d'être avec nous. Il y a un stage de tango ce week-end, 26 et 27 septembre, et les cours de tango reprennent le 10 octobre ici à Florac. On en parle dans un instant, on va lancer, on va s'amener un petit peu de calor. En deuxième partie d'émission, on diffusera le premier entretien des collégiens dans le cadre des 50 ans du Parc National des Cévennes. Ils ont choisi le RIS, la réserve de ciel étoilé, et ils ont rencontré Richard Scherer du Parc National des Cévennes. Ils ont fait les questions, ils les ont posées, c'était absolument génial. Il y aura de la musique, c'est d'ailleurs vous qui avez fait la programmation musicale. Je vous laisserai le soin parfois de dire les morceaux, puisque je ne parle pas un mot d'espagnol, voilà.
C'est ballot pour une émission sur le tango.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nico, si tu veux bien, on commence directement par les... C'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Limiter la fraude sociale, encore et toujours. Ces tout derniers jours, la Cour des comptes et un rapport parlementaire se sont penchés sur les arnaques aux prestations sociales qui peuvent viser les caisses d'assurance maladie et l'allocation familiale ou encore Pôle emploi. Le directeur général de la Caisse nationale d'allocation familiale a de son côté promis de muscler encore et encore les contrôles. Alors, en début d'année, un allocataire avait touché 415 euros mensuels pendant 2 mois au titre de RSA, le revenu de solidarité active. Mais au printemps, un courrier du conseil départemental de la Manche lui a indiqué que la somme ne lui serait plus versée. Motif, le montant des capitaux détenus actuellement par votre foyer dépasse 23 000 euros. C'est ses économies, quoi. Donc depuis une délibération du 17 juin 2016, le département de la Manche a en effet instauré un seuil de détention de capitaux, au-delà duquel le RSA financé par les départements et distribué par la CAF n'est plus versé. En interdisant de RSA les citoyens disposant de plus de 23 000 euros placés sur des livrets, assurance vie ou PEL, plan épargne logement, le département dirigé par Marc Lefebvre, qui est de droite, hein, autant le dire, entend encourager à recourir à leurs propres épargnes. En 2019, le conseil départemental de la Manche a signifié 70 refus pour 7 432 foyers bénéficiaires. Alors, c'est pas à nous de juger du bien ou du mal fondé de ces décisions. Le problème, c'est qu'il n'est inscrit nulle part dans la loi qu'en cas d'épargne, le RSA doit être sucré, et c'est bien là tout le problème. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen dans une décision du 1er février 2019 où il a annulé un précédent refus du département d'attribuer le RSA en raison du dépassement du seuil de 23 000 euros d'épargne. Ce camouflet judiciaire n'empêche pas le département de la Manche de continuer à appliquer sa politique au prix d'un raisonnement juridique pour le moins acrobatique. Et si on s'attaquait à l'évasion fiscale, ça représente plusieurs milliards d'euros. Allez, on parle de tango dans un instant, on écoute d'abord Donato Ratiati, Nina Miranda, le morceau c'est Gloria, c'est ça?
C'est ça.
Ah bah trop bien, on en parle dans un instant, c'est parti.
Thank you.
amor. Perdes tiempo, ya podés seguir. Desde el pique viejo te une la intención de quererme comprar. Pero yo soy de buen pedigré, a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar, que en mi juventud no es flor pa' tocar. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor.
Donato Ratchiati et Nina Miranda, c'est Gloria, je l'ai bien dit ?
C'est ça.
Alors, tu as découvert ça comment ?
En même temps que toutes les autres musiques anciennes, voilà, grâce à ma prof aussi, enfin notre prof, Cécile Valette, qui a des super sélections et qui fait DJ souvent dans les Milangas. Dès que j'entends une musique que j'aime bien, je lui demande la référence.
Voilà. On parle tango ce matin avec Céline et Sophie. Ah, le tango qui reprend début octobre ici à Florac. Céline, comment s'est née cette passion pour le tango ?
Et il ne peut pas l'expliquer. Hein. C'est un truc, c'est transcendantal. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qu'on voudrait vous dire vraiment, c'est que c'est quelque chose de profond qui vient vous réveiller les cellules comme ça. On ne sait pas d'où ça sort, mais on vous invite vraiment à venir essayer ça parce que d'un coup, vous allez vous sentir vivant, vibrant, dansant. Et c'est magnifique. C'est quelque chose qui ne s'explique pas vraiment. Hein.
Sophie, toi, tu as commencé quand ?
Il y a 5-6 ans maintenant, enfin un peu avant d'arriver en Lozère, vraiment par hasard. C'était pas une danse qui m'attirait, c'était à Liège, en Belgique. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est tout le contexte un peu d'un cadre et d'un monde un peu magique, en fait, où il y avait quand même... Ouais, je sais pas trop comment en parler, en fait. Désolé.
Le mieux, c'est de le vivre.
Hein. Oui.
La magie, c'est pas mal de dire que c'est un cadre.
Parce que si je commence à expliquer le parcours, là, j'en finirai pas. Donc, voilà.
Alors, on entend dire tout de suite que, évidemment, je posais la question d'où venait le tango, etc. Mais vous m'avez dit qu'on disait beaucoup trop de choses là-dessus et que vous préfériez qu'on le vive plutôt qu'on en parle.
C'est ça, nous on est pour l'expérience. Quoi, hein. Et ce qu'on vous propose à Florac, c'est quand même de vivre l'expérience. Et ça, c'est quand même incroyable, exceptionnel, super rare au fin fond de nos Cévennes. Et après l'histoire du tango, il y a des tas de films, il y a des tas de livres, il y a des tas de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que ça parle d'une vraie culture et d'un vrai vécu. C'est pas juste quelque chose qui est plaqué comme ça pour une histoire de mode, quoi. C'est quand même hyper incarné et hyper vivant. Et c'est ça qui nous fait vibrer. Pardon, je parle pas dans les micros.
T'en as parlé tout à l'heure, vite fait. Qui sont Cécile et Yves qui donnent les cours de tango ?
Alors, ce sont des professeurs qui viennent du Puy-en-Velay. Et ils sont de l'association Tango Volcanique. Et en fait, ils vont régulièrement en Argentine, justement. Et ils organisent régulièrement des stages aussi avec des maestros. Voilà. Et c'est des professeurs, je trouve, très, très humains, très simples et en même temps très compétents dans leurs différentes approches. Presque pour moi philosophiques.
Exactement. Ouais. Même spirituelles. Hein. Et ce qu'il faut dire aussi dans notre cours, c'est qu'il y a plusieurs profs différents qui viennent. Donc Cécile et Yves viennent régulièrement, c'est nos profs référents, on va dire. Après, comme ils sont en voyage régulièrement, il peut y avoir Sidi Graoui, qui est notamment la personne qui va animer notre stage contemporain tango le week-end prochain, qui vient de temps en temps faire des cours aussi. Il y a Alex, ce qui peut parfois remplacer Sidi ou Yves et Cécile. Et c'est très très chouette d'avoir plusieurs intervenants, d'avoir plusieurs regards sur le tango et plusieurs approches, c'est très riche.
Pourquoi par exemple le stage donc, qui se passe ce week-end que tu as abordé s'appelle Contemporain Tango ?
Parce qu'on a constaté que le tango, c'est le début du tango en Lozère. Hein. Ce n'est pas tout à fait implanté dans la culture locale. Alors que le contemporain, avec Ballet Bros, s'est beaucoup, beaucoup développé. Il y a beaucoup de danseurs de contemporains. Et on avait envie de proposer aux danseurs de contemporains d'aller explorer la passerelle qui peut les mener d'une danse à l'autre pour leur donner envie de venir partager avec nous le tango.
On peut avoir des gros clichés. Moi, je suis blindé de clichés sur le tango avec la rose dans la bouche, etc. Ce n'est pas tout à fait ça.
Eh ben, en tout cas, chez nous, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Et c'est ce que disait Sophie, c'est des profs très simples dans le sens où ils nous ramènent à l'essentiel du mouvement, à l'essentiel de cette rencontre. En fait, le tango, c'est de la communication non-verbale. C'est comment on va énergétiquement se rencontrer pour partager quelque chose. Et c'est magnifique. Et toutes les fioritures qu'il y a autour, presque, c'est de la cerise sur le gâteau. Mais en vrai, le tango, ce n'est pas ça.
D'ailleurs, je pense que le tango, pour moi, c'est de la marche. Et un truc que j'avais vraiment beaucoup apprécié, c'est des grands maestros qui avaient dit qu'il leur a fallu apprendre parfois toute une vie pour apprendre à marcher. Et c'est vrai que moi, souvent, les cavaliers, ils ont un peu peur de venir danser le tango parce qu'ils s'imaginent qu'on va proposer plein de choses, avoir plein de techniques. Et au final, il y a une base de techniques qui est le langage commun, comme un alphabet. Et une fois qu'on a ces techniques-là, en fait, c'est juste être dans son corps, sur le rythme et avoir envie de danser avec l'autre et de proposer d'être là avec l'autre et juste de marcher. Et moi qui fais maintenant cavalier, je me rends compte qu'en fait, parfois je dis eh, ça va, est-ce que tu t'embêtes pas, etc. Et en fait, de marcher, si on est ensemble sur le rythme, en fait, c'est des fois déjà énorme de marcher ensemble. En fait, c'est ça que je veux dire.
En ces temps de distanciation sociale, ce mot à la mode, etc., est-ce que le tango se danse tout seul ?
Eh non, hein, ça n'est pas possible.
C'est pas possible.
Ça n'est pas possible. Néanmoins, nous nous désinfecterons les mains. Nous essayerons de ne pas passer à l'aller et au retour dans les mêmes endroits. Nous respecterons. Chacun peut mettre un masque s'il le souhaite. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rendre obligatoire. Dans les cours de danse, ce n'est pas imposé pour l'instant.
Non.
Voilà. Mais chacun est vraiment libre de se protéger s'il le souhaite.
Ça n'a pas dû être facile pour vous l'année dernière. Avec le confinement, etc. Comment vous parlez de tango ?
Et on a dansé chacun chez soi dans son salon. Hein. C'est possible aussi, mais c'est moins rigolo.
Après, pour ce stage-là, contemporain tango, Sidi Graoui, donc il propose beaucoup d'exercices individuels pour justement construire son axe. Et avant de pouvoir danser avec quelqu'un, il faut d'abord explorer le mouvement, la conscience du mouvement seul. Et lui, il travaille beaucoup sur ça en profondeur et vraiment intensément. Il dit, dans ses paroles-là, il dit que c'est des exercices simples, mais pas toujours faciles. Donc voilà, il y a tout ce travail corporel, conscience corporelle dans le tango aussi, quand on fait des échauffements au début. C'est vraiment reprendre contact avec soi, donc il y a quand même pas mal de trucs personnels aussi, même si le but c'est de vouloir danser à deux.
Ouais. Est-ce que, c'est peut-être une question bateau, je ne sais pas, mais comme je ne connais rien en tango, voilà. Est-ce qu'il existe plusieurs types de tango ?
Oui.
Ah bah la question n'était pas si stupide que ça alors.
Il en existe plusieurs, après moi je serais bien en peine de tous te les décrire.
Moi le premier auquel je pense c'est le tango musette. Dans les balles avec les personnes assez âgées ou accordéon vraiment musette et le tango argenté, argentin avec l'accent lozérien, c'est celui qu'on danse, voilà. Moi, voilà.
Sidi Graoui, il est chorégraphe, il vient d'où ?
De Clermont-Ferrand.
Clermont.
Oui.
Et vous l'avez rencontré comment en fait ?
Dans l'association du Puy-en-Velay, association de tango volcanique du Velay.
On vous invite à aller voir leur site d'ailleurs qui est très très bien fait. Et qui parlent bien de leur passion et de tout ce qu'ils développent.
Je mettrai le lien sur notre site
ça serait super, en fin
de matinée, ouais. Pas de souci.
Le lien sur, par rapport à Sidi, qui a un site aussi sur son travail, et le lien avec le tango volcanique du Velay. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on en est déjà là, mais j'ai proposé la deuxième chanson que j'ai proposée là. C'est Otros Aires, c'est un groupe d'électro-tango, pour montrer aussi qu'en fait, il y a plusieurs types de musique tango. Il y en a des plus modernes, des plus anciennes. Toutes font vibrer à des degrés différents, mais que moi j'adore. Toutes ces sensations-là. Mais en fait, j'ai choisi ce morceau parce que c'est un concert qui a été organisé par Yves et Cécile par Tango Volcanique du Velay. On était à ce concert, on a dansé en live avec ces musiciens qui venaient spécialement pour ça et c'était magnifique et magique. Et le tango, c'est déjà merveilleux. Mais alors, le tango avec des musiciens en direct, c'est juste de la pure magie.
Je confirme. Mmh.
Le stage, il va se passer où ? Parce que ça, j'ai pas l'info.
Alors, le dimanche se passera au studio de la Jeunette Verte, mais il n'est pas disponible samedi. Donc, nous visitons une salle à 13h30 aujourd'hui pour valider valider la salle du samedi. Donc pour l'instant, petit point d'interrogation, mais quoi qu'il arrive, nous aurons une salle. Ne vous inquiétez pas, venez.
Les infos pratiques, c'est toi qui t'y colle, Sophie. Alors pour le stage.
Alors pour le stage, ça commence le samedi 26 septembre, donc le week-end prochain, de 14h à 18h, et le dimanche de 9h à midi, et de 14h à 17h. Voilà, pour le dimanche, amenez votre pique-nique, on fera un pique-nique partagé.
Et donc, oui, vas-y.
Juste vous dire que, comme c'est la semaine prochaine, si vous avez envie de venir danser avec nous, inscrivez-vous, appelez-nous rapidement pour qu'on sache combien on est. La jauge est limitée à cause du Covid, on ne peut pas être plus de 15, on est déjà 8. Donc, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Et les tarifs sont très très intéressants, hein. Pas cher du tout. Tu veux donner les tarifs, Sophie ?
Oui, 40€ pour 2 jours. Avec un... C'est vrai que Sidi, c'est quelqu'un, un danseur professionnel de contemporain. 65€ si on vit en couple pour 2 jours. 30€ le dimanche ou 20€ le samedi si vous ne pouvez pas faire les 2 jours.
Et pour les cours de tango, ça recommence le 10 octobre. Alors, à l'école maternelle ?
Non. Alors, on avait mis ça parce que c'est là qu'on dansait l'année dernière et l'année d'avant. Mais là, pour l'instant, avec le Covid, on ne peut plus trop faire ça. Donc, on cherche la salle. Mais ne vous inquiétez pas, nous en aurons une, quoi qu'il arrive. On a même fait, quand même, on a construit un parquet à la cave du 25 pour pouvoir danser le tango. Donc voilà, donc il y aura de toute façon cette salle de dispo. Les cours, donc c'est un samedi sur deux, parce que nos profs sont souvent en déplacement, en voyage, tout ça. Et cette année, on s'est engagé à faire un apéro tango par mois, donc une soirée dans laquelle on peut danser à la cave, le tango, ce qu'on sache bien ou pas bien danser, peu importe, et une pratica la quatrième semaine, de manière à avoir une possibilité de danser chaque semaine pour pouvoir progresser réellement, s'immerger réellement et avoir une continuité dans cet apprentissage.
Et les prix sont plutôt honnêtes, puisque c'est 60€ le trimestre.
Ouais.
Donc en fait, si tu comptes, ça fait à peu près 10€ le cours, quoi.
C'est ça. En fait, on dédommage juste nos profs des frais kilométriques qu'ils ont pour venir du Puy-en-Velay. Et donc, c'est Ballet Bros qui a la gentillesse de bien vouloir soutenir notre initiative de tango, là. Et on fonctionne donc avec l'association.
Qu'est-ce qu'on ferait sans eux, ici, hein ?
Ah, c'est ça.
Et donc, c'est 15€ le cours et l'adhésion. Je suppose que c'est quoi ça, à
Ballet Bros.
Ouais, voilà. Et le premier cours d'essai est offert.
Exactement.
C'est beau. Oui, de toute façon, si tu devais donner un seul argument pour donner envie aux gens de venir faire du tango, ce serait quoi ?
Venez vous sentir vivant.
Et toi ?
Exploration.
Exploration. Mmh. On peut pas en faire le tour, en fait.
Bah, il faut une vie, quoi. Ou 2, ou 3, ou 10. Mais si on commence jamais, on n'arrive jamais à destination, quoi.
Moi, je veux juste ajouter ce que j'aime par rapport à Yves et Cécile dans le cliché des tangos, parce que je pense que le souci, c'est tous les clichés qu'on a du tango, c'est qu'il fonctionne, tu l'as dit tout à l'heure vite fait, au niveau énergétique, au niveau subtil, on va dire. C'est pas le tango où là, bon, je fais les gestes, on voit pas à la radio, mais c'est vraiment où l'homme guide avec la force, etc. Ça, c'est fini, terminé. Et il y a vraiment un autre rapport aussi qui se joue entre hommes et femmes. Et c'est ça aussi, moi, qui me plaît. Aussi, on peut changer aussi, guider, le guidage. Et c'est quelque chose qui rassure dans cette société où on n'a plus forcément... Voilà, au niveau de la place de l'homme, la femme, ça donne un cadre qui est défini mais pas fixe, qui est modulable. Et vraiment, c'est la relation. Voilà, pour moi, c'est la relation, en fait. C'est exploration-relation.
La rencontre de l'altérité. C'est un cadre dans lequel on peut aller à la rencontre de l'autre et le découvrir, à découvrir comment ça se passe d'un point de vue subtil quand on va l'un vers l'autre et qu'on essaye de construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est magnifique.
Pour aller à la rencontre de soi, au final.
Alors, au final, vous ne vous êtes pas contredit, vous vous êtes complété. C'est plutôt
c'est
joli.
Ça.
Un tout petit mot, tiens, Sophie, puisque tu es là sur l'événement que tu avais organisé avec Isabelle Minetto au domaine des Boissets. C'était fin juin, il me semble. J'étais passé là-haut vous interviewer. Comment ça s'était passé ?
Super. Super, super.
Tu nous rappelles un peu ce que c'était ?
Alors, c'était, c'était de la danse contemporaine dans le paysage. Donc, de ci, de là, marche sensible.
On a dansé dans les arbres, voilà. On a dansé sur les rochers, on a dansé sur les clapas, on a permis aux gens de découvrir les paysages autrement, on leur a fait découvrir de manière sensible des points de vue qu'ils n'avaient pas explorés. C'était une très très belle expérience qui se poursuit d'ailleurs parce qu'il y a les 4 saisons. Il va y avoir bientôt l'automne où on va pouvoir à nouveau explorer, puis l'hiver.
C'est beau. En tout cas, les cours de tango, ça reprend le 10 octobre. Donc pour le lieu, on verra, ce sera avec Cécile Valette et Yves Bernadac. Le premier cours est offert. Et tout le week-end, vous avez un stage de danse contemporain tango avec Sidi Graoui. Les renseignements, c'est 06 44 37 91 53. Je mets évidemment toutes les infos sur notre site et c'est organisé avec, enfin pas organisé avec, mais entre autres avec Tango Volcanique du Velay, c'est ça ?
Exactement.
Donc je mets le lien sur le site. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Et on écoute un autre choix musical qui s'appelle, alors c'est, merci beaucoup Céline, Ostros Aires, Otra Noche en la Viruta.
En la Viruta, si.
Ouais, ouais, j'y arrive, ouais. On écoute ça tout de suite.
Se hace por un rato mío. Otra noche en la viruta. Bailadores en su tinta, señoritas abundantes, caballeros atorrantes, en el medio de la pista, entre giros, sacadas, derrotas, conquistas, y en el sueño milonguero voy gastando mi albedrío, y tu cuerpo que era ajeno se hace por un rato mío. Otra noche en la viruta.
Otros Aires, Otra Noche en la Viruta. Ça y est ?
C'est parfait.
Évidemment, là, on va s'écouter une petite interview des collégiens. Mais avant, je voudrais qu'on parle du dernier morceau que tu as choisi de nous filer. Ça s'appelle « Neuf d'Irulio ». Tu nous en dis deux, trois mots.
Alors, « Neuf d'Irulio », c'est un morceau, un classique du tango, qui a été repris par Dédé et Guillaume, qui avaient un groupe qui s'appelait Sidéral Vagabond. Je ne sais pas si vous avez eu l'honneur et le bonheur de les entendre. Et donc, Guillaume écrit des textes et slam. Dédé faisait de la musique sur laquelle Guillaume venait parler, chanter. Et donc, ils ont, voilà, ça c'est un enregistrement à la maison d'une répète un peu comme ça, quoi, sur le feu. Moi, j'adore. Et c'est vrai que là, ça me fait vraiment plaisir de leur faire un petit clin d'œil et de les faire revenir parmi nous. Je trouve ça magnifique. Voilà.
On écoutera ça en fin d'émission. Merci beaucoup, Céline.
De nada.
Ce week-end, c'est les 50 ans du Parc National des Cévennes. Et dans ce cadre, les collégiens du Club Radio ont interviewé, et avec brio d'ailleurs, ils ont fait questions, ils ont interviewé. C'était absolument génial. Ils ont donc interviewé Richard Scherrer, qui est chargé de mission au Parc National des Cévennes. On écoute ça tout de suite.
Dans le cadre des 50 ans du Parc National des Cévennes, nous, les élèves du Collège de Florac, avons choisi de travailler sur la réserve internationale de ciel étoilé. Et dans ce cadre, nous sommes, pour Radio Bartas, avec M. Scherrer. Bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter ?
Donc Richard Scherrer, je travaille au Parc National des Cévennes depuis 13 ans. Je suis délégué territorial sur un secteur géographique, donc au-dessus de Florac, donc le Cosmejan, le hameau du Villarège. Et parmi mes missions, je m'occupe du suivi de la réserve internationale de ciel étoilé.
Ok. C'est quoi le RIS et depuis quand a-t-on ce label en Cévennes ?
Alors, c'est la RIS, donc c'est une réserve, donc c'est féminin. Réserve internationale de ciel étoilé. Donc, c'est un label décerné par une association américaine, donc qui s'appelle IDEA, International Dark Sky Association. Donc, c'est une association d'astronomes amateurs et des professionnels qui a mis en place un label qui est ouvert à qui veut, en fait. Qui décerne en fait, qui reconnaît la qualité d'un territoire et la qualité de la nuit en fait, et le nombre d'étoiles qu'on voit en gros. Donc c'est un label qui est décerné après un dossier de candidature, donc il faut rédiger, réfléchir. Il y a plusieurs critères, mais on pourra en reparler. Et donc nous on a candidaté à ce label en 2017 et on l'a obtenu en 2018. Voilà, donc ça fait bientôt 3 ans qu'on a ce label. Il y en a en France, il y en a 2 en plus de nous, donc le Pic du Midi et dans le Mercantour. Et dans le monde, il y en a 13. Donc on est la 13e, on était la 13e au monde, maintenant il y en a 14. Donc c'est quelque chose d'assez prestigieux qui reconnaît, si on regarde la carte de la France de nuit, donc vous voyez ces photos satellites de nuit, des satellites qui passent en Europe, hein, avec, on voit très bien les grandes villes et l'éclairage public. Et parmi, au milieu de ces énormes zones, la vallée du Rhône, Paris, voilà, les énormes zones urbaines, on voit des taches très sombres, en fait des lieux où il y a très peu d'habitants et donc du coup très peu d'éclairage public. Et il y a la Lozère, voilà, il y a le Parc National des Cévennes au milieu.
Qui a eu l'idée et d'où est-elle venue ?
Alors l'idée, elle vient de la charte. Donc la charte, c'est le projet de territoire qu'on a élaboré avec avec l'ensemble des acteurs ici en 2011-2012, où on avait mis un petit sujet sur à destination des communes, donc travailler sur améliorer la qualité de votre éclairage public. Et à partir de là, on a déroulé une pelote de fil. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait ce label qui existait, donc de réserve internationale de ciel étoilé. Et du coup, on a fait le lien entre, on peut travailler sur l'éclairage public, améliorer en fait l'éclairage public, et essayer d'obtenir ce label. Donc le but, c'était de dire, à travers ce label, qui est prestigieux, international, on va tirer vers le haut le territoire, et on va dire aux gens, ben voilà, aux communes, travaillez sur votre éclairage public, donc travaillez sur les lampadaires, la qualité des lampadaires, mais on y reviendra. En gros, pour que les lampadaires éclairent au sol, baisser la puissance, éclairer au sol et pas éclairer les étoiles. C'est ça l'enjeu. Et puis couper, si on veut et si on peut, on peut couper la nuit aussi, à partir de minuit jusqu'à 6 heures grosso modo. Et à partir de là, on a proposé, avec des fonds publics, on a été chercher de l'argent, aux communes de rénover leur éclairage public. Et le lien, c'était, ben, le but, c'est d'essayer d'avoir ce label international en déposant un dossier de candidature, quoi.
Et quelles sont les démarches pour obtenir finalement ce label ?
Alors c'est un dossier, c'est un pavé, hein, si on résume, hein, c'est un gros dossier qui fait à peu près de 100 pages, où La première chose, c'est mesurer la pollution lumineuse. Donc, on s'est promené avec des appareils. Et là, les astronomes amateurs nous ont beaucoup aidés. Donc, il y a des petits appareils. Ça s'appelle des SQM. C'est des Sky Quality Meters. Donc, en gros, c'est un petit appareil avec une petite cellule qui mesure la pollution, donc l'éclairage public qui vient depuis le sol. Donc, on s'est promené, nous, et on était une bonne quinzaine avec des astronomes, sur le territoire pour mesurer la qualité de la noirceur du ciel, en fait. Donc, ça, c'était la première étape. Et puis ensuite, il fallait montrer qu'on faisait plein de choses autour de sensibilisation, d'actions dans les écoles, d'actions de randonnées astronomiques, d'actions de sensibilisation. Et puis, il fallait aussi montrer que le territoire, donc les élus, sont avec nous. Donc, il fallait avoir l'accord des élus. Et puis, l'autre chose, c'était aussi d'avoir un diagnostic, un état des lieux du parc de lampes, de lampadaires publics. Alors, surtout sur la zone cœur du parc. Et puis aussi avoir une vision de tout ce qu'il y avait un peu autour. Voilà, le dossier, c'était ça en résumé. Et puis, donc, on a écrit ça en anglais. Donc, c'est là qu'il faut trouver des gens qui ont travaillé bien l'anglais à l'école. Et puis, envoyer ça aux Américains, discuter avec eux. Il y avait eu un peu d'aller-retour sur des choses qui n'étaient pas complètes. Et puis ensuite, voilà, ils ont examiné ça et ils nous ont décerné le label, quoi.
Est-il vrai que nous sommes la plus grande réserve étoilée d'Europe ?
C'est ça. Voilà, c'est la plus grande. Donc, les autres qui sont présentes, donc il y en a le Pic du Midi, qui est un peu plus petit. Il y en a plusieurs en Angleterre, en Allemagne, qui sont à des tailles un peu plus petites. Et nous, on a mis tout le territoire du cœur de parc, donc la zone qui est labellisée cœur de parc national. Donc, c'est en gros, c'est 90 000 hectares. Donc, ça fait 900 km². C'est les sommets, une partie du sommet du Causse-Méjean, le sommet de l'Aigoual, le haut de la Canne de l'Hospitalet et puis le sommet du Mont-Lozère, donc, qui correspond à la zone cœur du parc national, quoi. Donc, c'est grand, effectivement, et c'est habité.
Et quel est l'intérêt d'avoir ce label ?
Alors, l'intérêt, c'est déjà de rentrer dans ce club un peu prestigieux, de dire on a ce label, on est réserve de ciel étoilé, parce que derrière, ça veut dire qu'on a une très belle qualité de ciel étoilé. Et ça veut dire aussi qu'on sait que dans la communauté des astronomes amateurs, on est reconnu. Et que derrière, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir ici, et c'est ça aussi l'intérêt, pour venir voir les étoiles. Parce qu'ils savent qu'ils viennent, il y a peu de pollution lumineuse. Soit ils s'intéressent à l'astronomie et ils le savaient déjà un petit peu, soit ils s'intéressent un peu de loin et ils vont se dire, tiens, je vais aller dans cet endroit-là. Et du coup, l'idée, c'est de créer autour de ça des gîtes qui vont se positionner un peu sur ce créneau, des gens qui vont faire des sorties astronomie, contes de la nuit, et puis aussi, surtout, de mobiliser les élus pour leur dire, il faut améliorer votre éclairage public. Rénover, couper, si vous voulez, la nuit, mais améliorer votre éclairage public, parce que souvent, au fil des ans, voilà, les éclairages, il y a encore pas mal d'endroits où on a ces lampadaires, ces gros lampadaires, vous voyez, ces lampadaires boules, qui sont des boules de verre, en fait, avec la lampe au milieu, et qui éclairent plus le haut que le sol. Et le but d'un éclairage public, c'est d'éclairer au sol.
Vous venez d'en parler, mais est-ce que les communes jouent le jeu ?
Oui, elles jouent très bien le jeu, en Lozère et dans le Gard, parce que vous savez que le parc national est à cheval sur deux départements. Donc, côté Lozère, il y a un syndicat qui gère l'éclairage public pour le compte des communes. Donc, c'est le SDE 48, c'est un syndicat d'électricité et d'énergie. Donc, il a très bien joué le jeu depuis le départ. Et dans le Gard, il y a un autre opérateur, même chose, un syndicat qui s'appelle le SMEG, et qui, lui aussi, gère l'éclairage public pour le compte des communes. Et oui, les communes ont très bien joué le jeu. Après, on les a beaucoup aidés en leur apportant des financements publics, parce que c'est des coûts. Rénover une lampe, un lampadaire, hein, grosso modo, c'est entre 800 et 1000 euros. Donc, ça fait des sous pour un maire, dans des collectivités, des territoires où il n'y a pas forcément toujours beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ça va beaucoup mieux quand il y a des subventions parce que c'est plus facile à amortir. Mais oui, elles ont très bien joué le jeu.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus d'éclairage public dans 50 ans ?
Oui, on peut l'imaginer. Oui, tout à fait. Peut-être que ça sera la mode dans 50 ans de ne plus avoir d'éclairage public. Mais aujourd'hui, oui, je réponds oui. Et sur le territoire, alors c'est peut-être des précurseurs, il y a trois communes. Une en Lozère, donc c'est Gabriac. Dans le Gard, il y en a une autre, c'est Pérol, et il y en a une troisième, qui n'ont pas d'éclairage public du tout. Alors souvent, ce sont des très petites communes, mais si vous allez voir le maire de Gabriac, il est passionné par le sujet, et depuis qu'il est maire, donc ça fait... enfin, en tout cas, depuis que la mairie a pris cette décision, ils n'ont jamais eu d'éclairage public. Et quand il y a des gens qui arrivent dans cette commune, bah, ils disent bah, nous, on n'a pas d'éclairage public parce qu'on n'a jamais éprouvé le besoin d'en avoir. Si vous en voulez, vous pouvez en mettre dans votre jardin ou dans votre cour, au-dessus de votre garage, mettre une cellule avec une petite lampe. Mais la commune a décidé de ne pas avoir d'éclairage public. Après, c'est un peu utopique malgré tout, mais voilà, oui, on peut l'imaginer.
Merci Monsieur Scherrer d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Voilà pour cette première interview faite par le club radio du collège de Florac. Voilà, j'ai une super équipe cette année, je suis très très fier d'eux. Et il y aura la deuxième interview concernant donc, la réserve internationale de ciel étoilé et de Guy Herbreteau qui fait partie de l'association Astrolab. Ce sera mercredi. D'ailleurs, mercredi, nous recevrons en matinale Marc et Sophie pour leurs livres respectifs. Et oui, ils viennent de sortir leur bouquin. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup, Nico.
Merci à toi, Ben.
Et donc, à mercredi. Profitez bien de cette dernière journée d'été en espérant qu'ils ne pleuvent pas trop. Passez une bien bonne journée. À mercredi. Et on se quitte d'ailleurs avec Neuf Dérulio, un morceau de Dédé et Guillaume proposé par Céline. Un joli hommage pour terminer cette émission. À mercredi. Ciao.
J'ai marché des milliers d'années sur les chemins escarpés de la liberté. Pierres et racines sont mes compagnies implacables, amis des montagnes. J'ai dû renoncer à mes langues natales pour survivre. J'ai changé mes pas de danse. J'ai réécrit ma mémoire. J'ai changé mes dieux, mais les étoiles au fond de mes yeux sont mes aïeuls infinis. Longtemps j'ai cherché comme un sage la raison, erreur de chef. Sa raison, j'ai marché, poussé, égaré, dissous d'avoir raison. Et ainsi, j'ai perdu une belle oppression. C'est la même que je vois encore, toujours, et pourtant, partout prendre le pouvoir, empruntant les noms. Demain, chantant. Je chante, je danse, je travaille de mille façons et vos sourires nous donnent raison. Et je sais qu'un jour encore je partirai, car si je reste, je mourrai. Alors encore une fois, je prendrai la route. J'aime ces gens, mais pas ce gouvernement. Et comme des milliers, je m'en irai, lasse d'être lynché pour quelques idées. Je ne suis pas triste car toujours la vie.